micro du soir, Aïchla RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un professeur des universités en sciences politiques français, Yann Raison-Duclesiou, qui enseigne à l'université de Bordeaux et qui est également membre de l'Institut de recherche Montesquieu. De passage à Bucarest, Yann Raison-Duclesiou est l'invité du CEREFREA, le Centre Régional Francophone de Recherche Avancée en Sciences Sociales, pour une série de conférences qui porteront sur la sécularisation religieuse et les transformations politiques de la société française. J'en profite pour saluer Simona Nekula du CEREFREA, ainsi que la coordinatrice de ce même centre, Simona Corlan-Johan, déjà invitée au micro du soir. Sans oublier Dragoș Jipa, lecteur universitaire, qui nous a mis en contact. Yann Raison-Duclesiou, bonsoir.
Bonsoir Laurent Couder.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout que vous avez un programme chargé aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui à Bucarest. Alors, je vous propose de nous concentrer évidemment sur le sujet dont vous êtes venu parler à Bucarest, mais permettez-moi de commencer par une actualité. Je vais profiter de votre présence ici et je pense que les auditrices et auditeurs voudront avoir votre opinion sur ce qui bouleverse en ce moment le paysage politique français. Je me réfère bien sûr à la condamnation de Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Il va y avoir un appel, je crois, qui a été décidé pour l'année prochaine. Selon vous, d'ici la prochaine élection présidentielle de 2027, quel impact cette condamnation, si elle se confirme, pourrait-elle avoir non seulement sur la scène politique française, mais je dirais, et surtout sur la société française?
Alors, c'est une question vraiment d'actualité immédiate et il n'est pas facile d'y répondre. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que l'enjeu, bien sûr, c'est l'élection présidentielle de 2027. Sachant que Marine Le Pen a été finaliste de l'élection présidentielle lors des 2 dernières élections. Par conséquent, le fait que elle soit inéligible, cela change beaucoup le rapport de force anticipable lors de cette élection. Donc ça crée une incertitude, mais il est encore très tôt, je dirais, pour anticiper les effets déstabilisateurs. Par ailleurs, je veux souligner que c'est la deuxième fois dans l'histoire des droites, à l'occasion de l'élection présidentielle, qu'un candidat est empêché par un contexte judiciaire particulier, puisque en 2017, François Fillon, qui était le candidat des Républicains, avait été impacté par un scandale judiciaire lié aussi à un détournement de fonds publics avec des faux contrats dont bénéficiait son épouse. Et cette affaire ne l'avait pas empêché de se présenter, mais avait frappé d'illégitimité une partie de sa candidature.
Surtout qu'il était le favori, excusez-moi.
Exactement, ouais, il était le favori.
Vraiment le favori.
Et par conséquent, il n'avait pas accédé au second tour, très certainement en raison de cette affaire judiciaire. Et pour une partie des droites, il y avait eu un sentiment d'élection volée par une manipulation judiciaire. Et Marine Le Pen a essayé de réactiver cette lecture et cette interprétation d'une élection volée en raison d'un exercice de la justice qui serait entre guillemets injuste, c'est-à-dire qui serait motivé plus par des finalités politiques que par une application du droit. Alors, les spécialistes de droit public, je dirais, sont intervenus dans les médias. Je pense à une tribune d'Olivier Beau dans Le Monde tout récemment pour dire à quel point le droit avait été bien appliqué et que par conséquent, la protestation que fait Marine Le Pen, c'est une protestation qui n'est pas juridiquement fondée, mais qui vient, je dirais, jeter le soupçon sur le système judiciaire français, ce qui politiquement est toujours relativement dangereux, parce qu'à partir du moment où le droit n'apparaît plus comme, je dirais, un bien commun, comme une condition de la justice pour tous, eh bien, ce sont les institutions qui peuvent être frappées d'illégitimité. Donc, on touche là à une, vous voyez, à une mécanique de soupçon sur le jeu institutionnel qui peut potentiellement être être dangereux pour l'état de droit.
Hein. Surtout qu'il y a eu une certaine bienveillance, parce que je crois que l'appel va pouvoir être prononcé dans un an, alors que il aurait dû être, c'est après deux ans, non, je pense.
Oui, hein, oui, tout à fait, effectivement. L'appel va avoir lieu avant l'élection présidentielle de 2017.
2027, oui.
Cela dit... Oui, 2027, excusez-moi.
Non, non, mais...
cela dit, quel est est-ce que cet appel est une bonne chose pour Marine Le Pen? Ce n'est pas totalement certain, parce que cela veut dire aussi qu'elle va rester dans des problématiques judiciaires jusqu'aux élections. Bon, donc on est là vraiment dans une incertitude nationale. En tout cas, il y a une rhétorique anti-état de droit qui est utilisée au sein du Rassemblement national, qui pour l'instant semble avoir peu de prise, y compris au sein du Rassemblement national. Je dis bien pour l'instant, on est sur des dynamiques toutes récentes, on verra. Mais ensuite, moi je crois que... l'incertitude, de toute façon, sur la prochaine élection présidentielle, elle est principalement causée par la situation internationale. Puisque depuis que Donald Trump a pris son mandat présidentiel, a débuté son mandat présidentiel, donc depuis le début de l'année, on voit bien que l'actualité nationale est dominée par une actualité internationale, et cela change beaucoup de choses. Je voudrais faire un parallèle avec la situation du Canada, où Justin Trudeau était un peu, on va dire, avait une fin de mandat un peu, plutôt une mauvaise dynamique. Tout le monde disait que Pierre Poilievre, le chef de l'opposition canadienne, était qui a une orientation conservatrice et plus populiste, était le mieux placé pour lui succéder. Mais la confrontation avec les États-Unis, que ce soit sur la question des droits de douane, mais au-delà même, puisque il y a un discours américain qui parle d'annexion du Canada, donc on est dans une situation un peu totalement inédite et très surprenante, eh bien, ce contexte d'incertitude internationale vient renforcer la légitimité des acteurs politiques du centre, et donc la légitimité des libéraux, et par conséquent, Marc Carney, a succédé à Justin Trudeau, pour l'instant semble le favori des prochaines élections, et non Pierre Poilievre, ce qui montre que l'incertitude internationale créée par, un tournant populiste, si on le qualifie comme ça, des États-Unis, ne favorise pas les populistes dans un certain nombre d'États. C'est pas le cas au Canada. Donc, il est tout à fait possible aussi qu'il y ait le même type de dynamique en France et que ce climat d'incertitude, de toute façon, aurait contribué, je dirais, à affaiblir la candidature de Marine Le Pen. Mais bon, là, je vous fais des...
Ce que vous dites me fait penser également que, vous savez qu'en Roumanie, il y a une élection présidentielle et qui va bientôt avoir lieu, et peut-être que ce que vous dites pourrait être appliqué également ici, mais c'est une autre interrogation. Monsieur Raison Duclézieux, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne à la thématique des conférences maintenant que vous êtes venu donner à Bucarest. Et quand j'ai vu le programme du Tcherefrea, j'ai tout de suite été intéressé par cette thématique de la sécularisation religieuse et des transformations politiques de la société française. Alors, j'aurais une première question, je dirais, qui me brûle les lèvres, parce que c'est une observation que je fais en tant que Français depuis Bucarest, mais qui récemment a été quelque part soutenu par un historien belge, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Vincent Genin, qui a écrit un livre sur la laïcité récemment.
Mm-hmm. Je connais Vincent Genin.
Ah, oui. Très bien. Et donc, sa qualité d'historien belge, je trouve, est très intéressante parce qu'il a un certain recul, je dirais, par rapport à cette laïcité. Et donc, ma question est la suivante, pour reprendre un petit peu aussi ce qu'il dit sur cette laïcité qui est avancée comme une valeur absolue, immuable, inaltérable en France. Et donc, il fait un peu la critique de ça. Cette laïcité qui est au cœur de l'idéal démocratique, diriez-vous, comme lui, si je le paraphrase, qu'elle peut aussi s'avérer rigide et répondre de façon imparfaite à la singularité religieuse notamment?
Alors, Vincent Genin a raison de rappeler que la laïcité en France, elle n'échappe pas à l'histoire. On a trop tendance à en faire une sorte d'absolu, hein, de valeur invariable, intemporelle, la laïcité à la française, hein, tout de suite que l'on met sur un piédestal. Et très souvent, quand on parle de cette laïcité à la française, on met en exergue ce moment fondateur qu'est la loi de décembre 1905. Bon. Alors, ça, c'est une mythologie politique. C'est une mythologie parce que le droit des religions a beaucoup évolué depuis 1905. Et le référentiel même, hein, c'est-à-dire, on va dire, les finalités de la laïcité, ont changé depuis 1905. Alors, un petit rappel. En 1905, on va dire que le grand principe qui régit cette loi, c'est un principe, c'est un principe libéral. Hein, c'est un principe libéral, c'est-à-dire que la laïcité, sa première justification, c'est la protection de la liberté de conscience et c'est la protection des croyances religieuses. Et la condition de cette protection des libertés, de la liberté de conscience, c'est que l'État soit neutre. Parce que si l'État n'est pas religieusement neutre, alors l'autorité de l'État, elle est le véhicule d'une représentation religieuse du monde, et tous ceux qui ne la partagent pas sont donc menacés. Donc, neutralité de l'État pour le respect
qui des croyances. Qui arrête les financements, pardon, excusez-moi, je vous coupe, qui arrête les financements des cultes, hein, c'est à ce
voilà.
moment-là.
Et par conséquent, l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte, c'est la mise en œuvre de ce principe de neutralité de l'État, même si il ne faut pas oublier que c'est un principe général qui a bien des exceptions, c'est-à-dire que même dans la loi de 1905 prévoit que l'État peut subventionner les cultes lorsque c'est nécessaire à l'exercice de la liberté religieuse, par exemple peut financer les aumôneries dans les établissements, dans certains établissements publics comme les prisons ou l'armée. Donc voilà, il y a des exceptions. C'est un peu plus souple qu'on ne le pense ou qu'on ne le, je dirais qu'on ne le met en scène quand on parle d'une séparation des Églises et de l'État. Non, il y a une neutralité de l'État, mais il y a quand même des relations. Bon, donc ça c'est l'idée générale. Ce principe de neutralité de l'État, il a été, je dirais, réorienté d'une manière majeure par une loi qui a désormais 20 ans, c'est la loi de mars 2004 sur les signes religieux ostensibles à l'école. Et cette loi, qui est une réaction à toute une série de controverses engagées depuis la fin des années 80 en raison du port d'un foulard par les musulmanes dans les écoles publiques. Port du foulard qui n'est absolument pas contraire à la loi de 1905. D'ailleurs, le Conseil d'État est mobilisé et dit que ce qui compte, c'est que les représentants de l'État soient neutres. Mais les représentants de la société n'ont pas à être neutres, puisque justement la neutralité de l'État vise à protéger la liberté d'expression de la société.
Et la protection des cultes.
Et la protection des cultes, et la protection de la liberté de conscience. Donc, que des musulmanes portent leur foulard au lycée, à partir du moment où ça n'entrave pas, ça ne pose pas de problème d'ordre public, ça n'est pas contraire à la loi de 1905. Mais interprétation de la loi de 1905 ne satisfait pas une partie de l'opinion politique, d'où une évolution législative, la loi de mars 2004, qui va spatialiser la neutralité. Hein? Avant, la neutralité, elle ne concerne que les représentants de l'État. Désormais, la neutralité, elle va s'imposer à des espaces, et tout particulièrement à l'espace scolaire, qui est considéré comme une forme de sanctuaire républicain dans lequel, au nom de la liberté de conscience, aucune forme de pression religieuse ne doit être possible. Donc, cette loi désormais impose la neutralité aux élèves des écoles publiques, mais aussi a été étendue à tous ceux qui travaillent dans le cadre scolaire, que ce soit, je ne sais pas, les cuisiniers dans une cantine, mais même aux parents lorsqu'ils accompagnent une sortie scolaire, puisque ça reste du cadre scolaire. Et donc, par exemple, une mère musulmane qui porte le foulard, eh bien, on considère que ça va être contraire avec la neutralité qui est imposée. Donc, vous voyez,
c'est toujours vrai aujourd'hui.
Et c'est toujours vrai. Donc, on a une spatialisation du critère de la neutralité. Et ça, c'est un vrai changement. C'est plus du tout la neutralité telle qu'elle est pensée en 1905. Parce que cette nouvelle conception de la neutralité spatialisée...
Utilisée par le Rassemblement National...
Oui, enfin, là, on est dans le cadre d'une loi qui a été, a été votée et qui a fait l'objet d'une unanimité entre gauche et droite. Hein. Mmh. Bon, c'est le travail de la commission Stasi. Mais ce principe de spatialisation, effectivement, de la neutralité, depuis, un certain nombre d'acteurs politiques veulent l'étendre, dont le Rassemblement National, mais aussi le Parti Les Républicains, veulent l'étendre à de nouveaux espaces. Alors, il y a eu des controverses pour l'étendre aux plages, en disant les plages, c'est un espace public, et donc certains maillots de bain qui sont des marqueurs religieux, comme le burkini, ne devraient pas être autorisés sur les plages. Volonté de l'étendre aussi à l'entreprise, ce qui a été rendu possible par la loi El Khomri. Par la loi El Khomri, qui rend possible que des entreprises impose la neutralité en leur sein, la neutralité religieuse en leur sein, alors même qu'auparavant c'était impossible, en raison même de la protection de la liberté de culte, de la liberté de conscience. On a tout récemment eu une controverse pour autour de l'extension de cette neutralité aux compétitions sportives. Le ministre de l'Intérieur a aussi émis l'idée d'étendre cette neutralité aux universités. Donc on voit bien que on est désormais dans un nouveau moment de la laïcité, où la laïcité ne sert plus d'instrument de protection de la liberté de conscience, mais sert d'instrument, je dirais, de contrôle des expressions religieuses de la société. Et tout particulièrement sert d'instrument d'invisibilisation d'un culte en particulier. Parce que toutes ces évolutions législatives depuis 2004, toute la problématique de la laïcité, toutes les controverses autour de la laïcité telles qu'elles existent dans l'opinion publique, elles ont toujours une religion, l'islam, en ligne de mire. Et donc, on peut parler aujourd'hui, comme le fait mon collègue Philippe Portier, d'une forme de culturalisation de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité ne vient plus protéger, comme je vous le disais, la liberté de conscience, elle vient imposer, au nom de la laïcité, une forme d'homogénéité culturelle. Hein. C'est-à-dire qu'elle cherche à rendre invisibles des expressions culturelles que l'on considère non conformes avec ce que devrait être, hein, je mets des guillemets, ce que devrait être la culture française.
Donc puis le mot intégration aussi, je ne me rappelle plus, qui disait qu'il y avait une certaine violence dans ce... il y a une connotation violente dans le terme d'intégration également.
Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les libertés religieuses régressent. Elle régresse depuis 2004. C'est l'islam qui à chaque fois est visé, mais il faut prendre un peu de recul. À travers ces lois, c'est l'ensemble des groupes religieux qui voient leur liberté régresser. Lorsqu'en 2004, la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école, donc elle est mise en œuvre. Bien sûr, ce sont les filles musulmanes qui sont visées. Mais je me souviens d'une controverse, je crois que c'est à Nice, parce que il y a des curés qui s'occupent de l'aumônerie d'un lycée public qui sont refoulés parce qu'ils ont un clergyman ou une soutane, je ne sais plus, ils portent un vêtement religieux et donc, voilà, ça vient s'appliquer à eux. Donc, on crée une intolérance à l'égard du religieux et, pour en revenir à votre question, la question de l'intégration, là, je vais vous donner plus mon interprétation personnelle. Je ne pense pas que qu'un régime d'interdiction crée des dynamiques favorables d'intégration. Je pense qu'au contraire, il vient dresser des frontières entre un groupe et le reste de la société, les pratiques de ce groupe étant systématiquement mises en exergue. Il donne le sentiment que la loi est faite contre un groupe. Donc, je pense que ce cadre, cette réorientation de la laïcité, ne peut que susciter, on va dire, une forme de réaction défensive des groupes religieux. Et je ne veux pas uniquement qu'on se focalise sur l'islam. Parce que on est aujourd'hui dans une extension du périmètre de la laïcité qui s'appuie aussi sur une extension de la domination des valeurs séculières. La France est une société séculière aujourd'hui. Hein. Et par conséquent, le religieux désormais se recompose à une échelle minoritaire dans la société française, et c'est aussi le cas du catholicisme, qui fut une religion majoritaire, mais qui aujourd'hui tendanciellement se recompose à une échelle minoritaire. Et bien sûr que des minorités religieuses face à une domination séculière, elles s'organisent pour résister à cette domination séculière, afin d'échapper à l'effacement. Donc, forcément, cela se traduit par une élévation de la frontière entre les groupes religieux et le reste de la société, et par la recherche d'institutions refuges où la transmission religieuse peut se faire à l'abri de la domination des valeurs séculières. Donc, dans la mesure où nous sommes déjà dans une sécularité dominante, je crois qu'insister en plus avec une laïcité offensive ne peut que renforcer, on va dire, l'orientation défensive des groupes religieux, et cela me semble tout à fait contre-productif.
Et quand je vous écoute, je me dis que la projection est plutôt pessimiste. On s'achemine vers un climat toujours plus tendu.
Ah. Alors écoutez, moi, je là-dessus, les universitaires n'aiment pas trop se prononcer sur l'avenir parce que quand on fait de l'histoire, que voit-on ? Eh bien, c'est que les contextes changent et qu'il y a beaucoup de d'inattendus. Donc, je ne sais pas, mais je voudrais insister sur une chose. Très souvent, on a des controverses en France sur le retour du religieux. Le retour du religieux, et alors que ce soit en raison de manifestations, enfin d'une visibilité publique croissante des pratiques musulmanes, c'est vrai, hein, le ramadan aujourd'hui est devenu une réalité sociale importante dans la société française. Mais ça peut tout autant être lié à la visibilité croissante des protestants pentecôtistes, hein, qui ont aussi une influence croissante à une échelle plus limitée, mais dans la société française, ou aussi au sujet des catholiques, hein, dont les expressions politiques conservatrices sont souvent l'objet de controverses, de polémiques. Bon. Donc on parle souvent du retour du religieux, mais c'est là une erreur de perspective. Il faut regarder les tendances statistiques. On est dans une société qui est de plus en plus séculière, où l'appartenance religieuse recule. Et c'est parce que la société est toujours plus séculière que ce qui reste de religieux apparaît toujours plus clivant et apparaît paradoxalement toujours plus visible. Donc c'est dans la mesure où la religion recule dans la société française qu'elle attire d'autant plus l'attention. Et vous voyez, ça c'est un paradoxe qui reste impensé. Il y a 50 ans, la société restait très majoritairement catholique, très majoritairement dominée par le catholicisme. Et par conséquent, ce catholicisme qui se confondait avec la culture dominante, il était à la fois omniprésent et invisible. Parce qu'une culture dominante, tout le monde pense à partir d'elle, à travers elle, et donc on ne la voit pas. Elle est peu clivante à mesure qu'elle est dominante. Mais quand un groupe religieux devient minoritaire, alors même qu'il est moins influent et plus dominé, il est plus clivant et il suscite plus de visibilité, plus de conflictualité. Et donc je crois que il faut un peu redresser la perspective et ne pas oublier que la tendance dominante dans la société française, c'est la sécularité, et non pas le retour du religieux. Le retour du religieux, en fait, n'est qu'une organisation à une échelle minoritaire de groupes religieux qui désormais, effectivement, intensifient leur sociabilité interne pour résister à l'effacement. Mais bon, on est à une échelle minoritaire.
Alors, il y a un autre paradoxe que j'aimerais aborder avec vous. Parmi vos thèmes d'enseignement et de recherche, vous traitez de la sociologie et de l'histoire des droites, de la sociologie des religions, encore de la sociologie de l'environnement. Question sociologie, donc. Il y a un autre paradoxe bien connu en France qui a été analysé par l'illustre sociologue Pierre Bourdieu, l'un de nos plus connus. Il a notamment analysé l'éducation basée sur le mérite, qui se veut équitable, mais qui ne ferait, je schématise évidemment beaucoup ça en analyse, et qui ne ferait que reproduire les hiérarchies sociales. Alors, moi, depuis Bucarest, et puis ça fait un petit moment que je suis là, je me pose toujours la question de savoir si c'est toujours vrai, parce qu'il y a eu quand même des efforts. Je pense à Sciences Po, qui a essayé d'intégrer davantage les milieux ouvriers au sein de ses classes. Mais est-ce que en France, il y a toujours ce paradoxe qui est un petit peu, on va dire, déséquilibrant entre, d'un côté, une société méritocratique, certes, mais qui, en fait, ne fait que reproduire les mêmes élites?
Alors, vous faites référence à deux ouvrages classiques, effectivement, de la sociologie française, Les héritiers, puis La reproduction, deux ouvrages de Pierre Bourdieu, où il écorne le mythe de l'égalité. De l'égalité en France, qui est au cœur du projet politique de la République française, depuis le 19e siècle. Un projet d'égalisation des conditions de vie, mais enfin surtout d'égalisation juridique, et qui s'est traduit par une attention particulière à l'école. L'école, c'est le creuset républicain par excellence. Depuis les années 1880, c'est le creuset de l'unité nationale, et c'est censé être un levier d'ascension sociale pour les classes populaires. Or, mais vous l'avez très bien résumé, ce que montre Pierre Bourdieu, c'est que sous un couvert d'égalité, le système scolaire reproduit les inégalités, en les légitimant au nom du mérite scolaire. Eh bien, ce constat, il est toujours valable. Mon collègue François Dubet, sociologue de l'Université de Bordeaux, vient de publier un livre où il montre à quel point la méritocratie à la française reste un mythe, puisque si on s'intéresse aux inégalités à l'entrée de l'école et les inégalités en sortie de l'école, elles restent les mêmes. Voire elles sont accrues. Donc la société française est une société qui demeure inégalitaire, et où les institutions républicaines ne parviennent pas à contrebalancer la force des inégalités de naissance. Alors, c'est le cas à l'école, où, par exemple, aujourd'hui, le ministère d'Éducation nationale utilise un nouvel instrument qui s'appelle l'indice de positionnement social pour mesurer l'homogénéité sociale des lycées. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, il y a de moins en moins d'amplitude sociale dans les lycées. On a des lycées qui se spécialisent avec le haut, on va dire, des classes sociales, et puis d'autres, le bas des classes sociales. Et par ailleurs, très souvent, ce clivage entre le haut et le bas, bon, pour le dire de manière assez simple, se superpose à un clivage entre l'école publique et l'école privée. Et dans la mesure où l'école privée, initialement confessionnelle, puisque le secteur est dominé par l'école catholique, mais on va dire, dont la finalité confessionnelle s'estompe à mesure que la société se sécularise, eh bien, dans la mesure où l'école privée devient une école d'élite, une forme d'échappatoire à l'école publique, cela signifie que l'école publique a de plus en plus de mal à remplir ses missions parce que elle n'a plus que les classes sociales qui ont plus de difficultés, qui ont moins de capital culturel, et donc forcément le défi est plus difficile à relever. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de la politique scolaire. Mais je dirais que les inégalités, le problème des inégalités va au-delà de la question scolaire. Il y a un certain nombre d'études, je pense aux travaux de Thomas Piketty par exemple, qui montrent aussi à quel point la société française est de plus en plus une société construite sur la rente. Sur la rente, c'est-à-dire où la part de l'héritage financier est de plus en plus importante dans le positionnement social. Donc cela produit, on va dire, une forme d'amplitude de plus en plus importante entre le sommet et la base de la société. Et bien sûr, dans toute société, une trop forte amplitude sociale, à un moment donné, peut remettre en cause la cohésion. Peut remettre en cause aussi la légitimité de l'État. Parce que si l'État ne parvient pas dans ses institutions à maintenir une certaine cohésion, cela signifie que l'État n'est plus, je dirais, l'instrument du bien de tous. Il n'est plus que il peut être interprété comme finalement l'instrument des élites. Hein, et donc ça peut tout à fait être propice à des rhétoriques populistes. Donc, il y a là un point de vigilance très important à avoir dans la société française. Mais en tout cas, ces tendances maintenant, hein, à l'accroissement des inégalités, elles s'inscrivent dans une certaine durée.
On oppose souvent notre système au système anglo, on va dire anglo-américain plutôt qu'anglo-saxon. Et vous parlez du Canada. Est-ce que si on prend l'exemple du Canada ou de l'Angleterre, est-ce que ça se passe mieux à ce niveau-là chez eux ? En tout cas, on les a souvent critiqués pour avoir un système complètement inégalitaire, basé surtout sur les revenus financiers. Mais je crois qu'on peut en intègre Cambridge ou Oxford éventuellement aussi sur des mérites tout à fait louables et pas seulement financiers. Mais est-ce que vous pourriez faire une petite comparaison ? Est-ce qu'ils s'en sortent mieux à ce niveau-là ?
Alors là, vous m'invitez à faire une petite comparaison sur un sujet quand même extrêmement vaste et extrêmement complexe.
Je sais bien.
Écoutez, moi là, j'ai envie de vous répondre prudemment. Je ne sais pas. C'est un peu difficile de comparer des sociétés comme ça de manière générale. Bon, si on se concentre sur la société française, il y a toujours beaucoup d'inégalités.
En ce qui concerne l'école, hein, tout.
Si on regarde, je regardais un rapport récent de l'OCDE sur la reproduction des inégalités par le système scolaire, la France est quand même en pole position dans cette reproduction des inégalités avec la Belgique et l'Allemagne. Donc, ce qui signifie bien que ailleurs, on peut faire mieux. Alors ensuite, bon, c'est un peu difficile de comparer parce que par exemple, en France, quand même, l'accès à l'enseignement supérieur est quand même beaucoup plus ouvert que dans la société qu'au Royaume-Uni, au Canada ou aux États-Unis, enfin, surtout aux États-Unis. Une inscription en licence dans l'université publique française, c'est quoi ? C'est à peu près 300 euros. Donc, c'est un budget minime pour un enseignement supérieur de qualité. Donc, il y a quand même toujours des instruments en France, des instruments d'égalisation, de promotion sociale qui sont là. Mais je dirais en fait c'est pas tant ces instruments qui sont faillis que leur portée qui est de plus en plus limitée en raison même de tout ce qui se joue en dehors de la société. Ne serait-ce que, vous voyez, la question de l'héritage, hein, de la rente dans le capital. C'est un élément qui va affaiblir la portée des institutions. Donc voilà, c'est un peu compliqué de comparer comme ça. Voilà, je n'irai pas plus loin.
Très bien. On va revenir un petit peu, dernière question sur la religion. Nous allons bientôt fêter Pâques, les catholiques et les orthodoxes ensemble cette année. Et vous venez d'arriver à Bucarest, mais c'est pas la première fois que vous êtes ici. Et vous savez quelle est la capitale d'un pays largement orthodoxe, à plus de 90%, et des forces orthodoxes au quotidien que je vois assez fervents. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous arrivez à Bucarest et que vous sentez, vous avez la sensibilité, je crois, de sentir cette religion très présente?
Oui, alors c'est sûr que c'est très intéressant, tout d'abord parce que cette importance de l'orthodoxie succède à une période de forte sécularisation politique promue par l'État communiste. Donc ça, j'en tire une première, une première interprétation, c'est que les dynamiques du religieux sont quand même très, sont parfois relativement imprévisibles, et qu'il faut bien se garder d'associer, comme on le fait souvent, la religion au passé, au nom d'une certaine forme de sens de l'histoire. Vous savez, on a une vision un peu téléologique, comme on l'avait au XIXe siècle, hein, Auguste Comte, hein, considérant que voilà, l'humanité allait passer par trois âges successifs, l'âge théologique, l'âge métaphysique et puis l'âge positif, et que finalement, le triomphe de la science allait effacer le questionnement religieux. Bah, non. On voit bien que non, c'est plus compliqué que ça. Le religieux peut revenir après une période de sécularité. Par ailleurs, la religion peut conserver une valeur politique. Peut conserver une valeur politique, et il me semble, mais vous me corrigerez si je me trompe, que justement l'orthodoxie est aujourd'hui construite aussi comme un élément constitutif de l'identité nationale, hein, et le fait qu'il y ait la construction de cette cathédrale à côté de la maison du peuple, c'est-à-dire c'est symboliquement très fort, hein, c'est symboliquement très fort. Donc la religion reste une ressource politique, une ressource d'unité. Là où c'est vrai que dans l'Europe de l'Ouest, elle apparaît.
Ça me semble positif.
Vous savez, quand le regard d'historien et de sociologue est un regard un peu relativiste. On cherche moins à savoir ce qu'il faut penser d'un problème que comment le penser. Mmh. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est positif ou négatif? Il faudrait que je fasse un choix de valeur pour le dire. Et bon, je préfère pas rentrer là-dedans. Donc, il y a une place pour l'orthodoxie. En même temps, c'est une religion qui me semble une religion majoritaire, c'est-à-dire que typiquement, elle est à la fois un peu omniprésente, mais beaucoup moins clivante, me semble-t-il, que peut l'être une religion minoritaire. Donc, ça montre bien à quel point on ne peut pas résumer la situation de l'Europe à la sécularisation, comme on le fait souvent. Hein. La sécularisation, c'est-à-dire ce retrait du religieux, c'est un peu le paradigme dominant à travers lequel, vu d'Europe de l'Ouest, on a pensé la religion, et ça n'est peut-être qu'une lecture très particulière du destin du religieux.
Mmh. Monsieur Raison Duclézio, on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment d'avoir...
Merci pour cette conversation.
D'avoir accepté d'être là avec nous avant de repartir pour vos conférences au Cerefrea. Merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui et pour la semaine suivante également. Nous vous souhaitons de belles Pâques catholiques et orthodoxes. À très bientôt. Au revoir.
Le micro du soir, Aïcha RFI.